débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
J'ai pas pris le temps de regarder vos réactions, mais je vais essayer de le faire quand même. Nous sommes avec Ferhan Ezzehari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, qui a publié Les écologistes contre la modernité, Le procès de Prométhée, édition Les presses de la cité. Gilbert Sel, professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse, aux éditions de Bock, et François Eckal, fondateur de Fipeco.fr. Vous partagez le cri du cœur de Xavier Rago, Gilles Bercette, quand même, ces élus ont-ils besoin d'avoir... Est-ce qu'en plus, vous êtes nombreux à défiler, François, il y a des gens
j'ai l'impression.
Mathieu Plagne y est allé, enfin...
J'y serai donc la semaine prochaine.
Et vous y serez... Mais...
non mais, plusieurs choses...
Ce que vient de raconter François, je pense que normalement, un élu doit avoir une petite idée, ça en théorie.
Mais il faut quand même poser comme constat, le premier constat qu'a énoncé François, à savoir que c'est très complexe, il doit faire partie des 5 à 10 personnes qui en France comprennent complètement les finances publiques.
C'est pas faux.
Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit coup de pub à son site, Fipeco, qui est la bible pour toute personne qui s'intéresse aux finances publiques, et avec beaucoup de pédagogie. Hein, justement, c'est quelque chose de lisible
et d'approprié parfois technique aussi.
Parfois technique, mais
néanmoins, et de désespérant. potentiellement désespérant.
Non, mais pour dire la chose de François d'une autre façon. Moi, je trouve complètement irritant l'espèce de schizophrénie politique où des gens disent il y a une gabegie, il y a l'indigence dans la gestion des finances publiques, etc. Et quand on regarde leur expression politique sur qu'est-ce qu'il faut faire, moi je vois plus de dépenses, moins d'impôts. Je ne vais pas prendre les parties les uns après les autres, mais faut baisser les taxes, faut dépenser davantage, mais on pointe du doigt, par contre, les pouvoirs publics
c'est
actuels
très vrai, c'est très
pour
vrai.
Ce qui se passe au niveau des finances publiques, sans regarder, comme l'a très bien montré François tout à l'heure, sans regarder dans le rétroviseur pour voir que...
Aucun parti n'est sérieux là-dessus.
Voilà. Donc, cette schizophrénie politique est absolument insupportable. Insupportable, je trouve.
Je suis d'accord avec vous quand on voit LR ou LFI faire de la censure sur les questions budgétaires alors que leurs programmes sont des montagnes d'impôts de dépenses
supplémentaires,
il y a un moment, c'est quand même une profonde malhonnêteté.
Mais réaction, ça reflète aussi l'état de l'opinion publique française, c'est-à-dire que notre classe politique, elle est aussi à l'image de l'opinion publique française, donc il ne faut pas non plus être démago en disant « Ah, ce personnel politique est complètement corrompu », il est à l'image d'une société française qui est elle-même schizophrène, qui ne veut pas effectivement prendre la question des finances publiques au sérieux, parce que de toute façon, sur le long terme, on est tous morts après moi le déluge, donc on a tous cette mentalité-là. Effectivement, il y a un manque d'altruisme intergénérationnel qui, on le voit aussi sur la question du changement climatique, par exemple. Tout ça fait qu'en effet, les finances publiques ne sont pas prises au sérieux. La question de la dette, plus fondamentalement, pose en réalité celle de son usage. À quoi cette dette a-t-elle servi ? A-t-elle servi à féconder la croissance économique ? A-t-elle servi à semer les graines de la prospérité future ? Ou a-t-elle servi effectivement à financer des dépenses courantes, à faire de courses quotidiennes ?
On a la réponse, Fergal.
On a la réponse, effectivement. Quand on regarde la structure des dépenses publiques, je parle sous le contrôle de Monsieur Eckal, 60% de l'augmentation des dépenses publiques ces six dernières décennies, est principalement imputable aux retraites, c'est bien ça. Donc ce sont ces dépenses-là qui ont principalement augmenté ces dernières décennies, ce qui montre en effet qu'il y a un problème d'arbitrage intergénérationnel, arbitrage entre d'un côté les investissements et la consommation. Et donc, oui, si on ne prend pas cette question-là au sérieux, eh bien, on aura non seulement effectivement des finances publiques mal conçues, mais des finances publiques qui ne sont pas tournées vers l'investissement productif et donc la prospérité nationale.
C'était le patron de la CADES qui a rappelé aux sénateurs tout récemment que la dépense sociale de la sécurité sociale est une dépense courante, mais pas une dépense d'investissement et n'a pas vocation, comme l'État, à être payée par de l'emprunt. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler.
Et cette dette doit être aussi mise en parallèle avec... Du coup, la croissance économique française ces dernières décennies. Quel est l'état de la croissance économique française ? Quelle est la croissance du PIB par tête en France par rapport à d'autres pays qui ont des finances publiques plus saines ? Et là-dessus, quand on se compare, effectivement, on ne se console pas vraiment.
Oui. Allez-y, Gilles Blassette.
Oui, deux choses. Je ne peux pas ne pas réagir à un point. Quand il est dit sur les dernières décennies, les dépenses de retraite ont été l'un des principaux postes, sinon le principal, d'augmentation des dépenses publiques, oui, c'est la montée en puissance de l'assurance retraite, c'est la montée en puissance de régimes qui n'existaient quasiment pas auparavant. Donc la montée en puissance de ces régimes,
Quand on se compare, rapidement en France qu'ailleurs.
Quand on se compare à d'autres pays, on voit que effectivement, la France est assez haut. Les dépenses de retraite, c'est à peu près 14% du PIB, 17% en Italie et 12,5% dans d'autres pays.
C'est plus en Italie.
Qui nous entourent. C'est plus en Italie. Alors, là où je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que quand on parle des dépenses de retraite, qu'on observe que ça fait 14% du PIB, quand on voit les déficits publics, quand on voit la dette, etc., la question du dénominateur est importante. La question du produit intérieur brut est importante. Et je répétais ce que j'ai déjà dit ici sur ce plateau, le produit intérieur brut par habitant en France est faible. Il est faible quand on se compare à d'autres pays. Comparons-nous à un pays comme les Pays-Bas, eh bien on est à 22-23% en dessous des Pays-Bas. Et pourquoi on est à 22-23% en dessous des Pays-Bas en PIB par habitant? Eh bien parce qu'on travaille moins du côté des jeunes, du côté des seniors, du côté des peu qualifiés. Si d'un coup de baguette magique, on allait de nos 68,5% aux 82% de taux d'emploi aux Pays-Bas, hein, pour la population âgée de 15 à 64 ans, eh bien, d'un coup de baguette magique, même en supposant que les gens qui seraient en emploi, qui rentreraient dans l'emploi, sont moitié moins productifs que la moyenne des personnes en emploi actuellement, on aurait 10 à 11 points de PIB en plus. Et avec notre taux de prélèvement obligatoire, ça ferait 140 milliards de plus dans les caisses publiques, sans rien changer.
Mais, je veux dire,
l'un des gros problèmes de nos finances publiques, c'est le PIB. Hein, c'est le PIB, voilà, c'est tout. Donc la priorité des priorités, qui est d'ailleurs celle des pouvoirs publics actuels, c'est d'augmenter le taux d'emploi, le PIB par habitant, pour augmenter le dénominateur de tous les ratios dette sur PIB, dépenses publiques sur PIB, déficit sur PIB.
J'ai un auditeur qui réagit en disant que c'est... Ah, François Lecal annonce des résultats catastrophique en riant, parce que vous avez souvent le sourire quand vous exprimez, c'est vrai. Il y a un auditeur qui réagit à ce que vous disiez sur l'inflation, la salariale du 19e siècle, sous-entendu, visiblement, ça ne le fait pas rêver. Quoi,
de... Mais évidemment, attendez, ça c'est vraiment un argument qui est complètement démagogique. On ne va pas comparer la situation d'un pays qui vient tout juste d'amorcer sa révolution industrielle à celle d'un pays qui a deux siècles de croissance économique derrière lui. La question de savoir, voilà, quelles sont les conditions qui ont permis cette révolution industrielle, et je remarque que ce sont des conditions de stabilité monétaire remarquable que nous ne connaissons plus, qui a permis de financer c'était l'âge d'or de l'épargne, de la rente, et je crois que c'était aussi un des ingrédients du succès industriel de l'Europe. Pour revenir à ce qui a été dit, après je passe la parole, on est d'accord, sur le taux d'activité, on est parfaitement d'accord, on a un taux d'activité qui est trop faible, mais les finances publiques ont aussi un impact sur le taux d'activité et sur les incitations à travailler. Quand vous avez des prélèvements obligatoires qui sont très élevés, ça influe aussi sur les incitations à épargner, à entreprendre, à travailler. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on nous dit, pour résorber les finances publiques, le déficit, on va devoir travailler plus, mais qu'on a des taux de prélèvements obligatoires qui sont confiscatoires, qui découragent le travail, et en particulier le travail des très qualifiés, c'est une équation qui est quand même assez compliquée.
Je me souviens de la réforme du chômage.
Oui, je me souviens, on va en dire un mot, mais je me souviens de, pour illustrer ce que vous dites, quand on se prend l'énorme rigueur fiscale du début du quinquennat de François Hollande, on avait rencontré, enfin même sur ce plateau, il y avait des professions libérales où les gars disaient, moi je bosse plus le vendredi, quoi, parce que c'est la peine, quoi. Il y a un moment, vous les avez vus quand, nos amis de Juvin et compagnie, François?
Il y a 15 jours.
Donc on n'était pas très très loin de la décision de S&P. Je crois savoir qu'ils vous ont quand même demandé si l'incident de crédit était quelque chose qui pouvait nous menacer. Et comme toujours, vous avez répondu, il ne faut jamais dire jamais.
Ah non, il ne faut jamais dire jamais. C'est pas pour demain.
Non.
Donc j'avais, bien avant la décision de S&P, j'avais dit, de toute façon, il ne se passera rien. Donc il ne s'est rien passé, bon.
J'avais dit comme vous. Voilà.
J'ai toujours dit aussi, c'est un signal d'alerte parmi d'autres. Et on a un vrai problème à long terme. Ça peut arriver un jour. Personne n'avait prévu, il y a maintenant quasiment 2 ans, ce qui est arrivé au Royaume-Uni, il y a 2 ans.
Oui,
tout d'un coup, une crise, d'accord, un changement... Mais en général, ça arrive, comme c'est arrivé au Royaume-Uni, à un moment de changement de politique économique. D'un coup, je pense qu'il se passera rien en France d'ici 2027, sauf dissolution ou je ne sais pas quoi, voilà. Mais normalement, il ne se passera rien, voilà. En revanche, en 2027, je ne sais pas ce qui peut arriver.
C'est ce que tout le monde dit. Ce sont des Liz Truss en Grande-Bretagne qui décident un mouvement de baisse d'impôts complètement hallucinant. Il faut moins d'une semaine pour que le pays se trouve avec le FMI à ses portes. Ouais. C'est quand même chaud. Ça vient vite. Christian Parizeau avait été hyper clair un jour. Il nous avait décrit par le menu la formation d'espèce d'ouragan qu'on ne voit pas venir et puis fou, le truc qui vous embarque en quelques heures presque. Oui, réaction, là, vous vouliez...
Une dernière chose aussi, je voulais réagir à ce qu'a dit Gilles Pergane. Quand on parle du fait, effectivement, que l'augmentation des dépenses de retraite est un phénomène naturel, je pense aussi qu'on peut discuter ce point de vue dans la mesure où cette augmentation des dépenses de retraite, elle est aussi un résultat de notre système. Nous avons fait le choix d'un système de retraite par répartition. On a un vieillissement démographique, mais on aurait pu aussi imaginer un système de retraite fondé davantage sur l'épargne qui pèse moins sur les finances publiques et sur les travailleurs. Donc on peut aussi se demander si la génération précédente, n'ayant pas assez épargné, n'a pas contribué à son échelle à faire peser le financement des retraites sur les travailleurs en lieu et place
on avance sur notre programme, allez-y, on va basculer sur l'histoire des boomers.
Je ne vais pas être trop long sur ce point-là, mais j'ai toujours regardé avec un petit peu d'humour cette argumentation, pour la raison suivante.
Quelle argumentation ? Dire qu'il faut un peu de capi en même temps que de la répartition ?
Non.
C'est ça.
Sur la question de l'épargne, la France est l'un des pays dans lequel le taux d'épargne est l'un des plus élevés de tous les pays avancés. Je veux dire, on n'a pas de déficit d'épargne en France. Voilà, et de déficit d'épargne en France, dans tout le cycle de vie, y compris pour les seniors d'ailleurs, il n'y a pas un déficit d'épargne en France qui en quelque sorte, briderait la mobilisation de capital. Pour d'autres activités, pour l'investissement, etc. Alors après, cette épargne, on peut la drainer vers des choses peut-être plus utiles que ce qui est fait parfois en France aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est pas le déficit d'épargne qui est quelque chose dont on souffre dans notre pays. Peut-être qu'on pourrait en faire autre chose, par exemple des assurances-vie placées sur des bons du Trésor, etc. On pourrait faire un petit peu mieux qu'encourager ce genre de placement.
Les assurances-vie sur les bons du Trésor, on est bon déjà là-dessus. On a 1400 milliards sur les 1800 d'assurances-vie.
On pourrait faire autre chose de notre épargne.
Ah oui, d'accord.
C'est ce que je veux dire par là.
Mais je ne sais pas si on est sur le même sujet.
Si, c'est le même sujet, mais moi je ne suis pas d'accord avec un pays n'a jamais.
On va parler des boomers.
Un pays n'a jamais trop d'épargne et trop d'épargnants. On a déjà du mal à financer aujourd'hui les retraites sans pressuriser les actifs. On va avoir des besoins de financement énormes pour la dépendance avec le vieillissement de la population. Donc là, il y a un arbitrage qui va se poser. C'est est-ce qu'on mobilise l'épargne des vieux pour financer toutes ces dépenses ou est-ce qu'on va davantage taxer les actifs ?
Et donc, mais la Cour des comptes est plutôt sur l'idée que c'est les actifs.
Ça pose un problème d'équité intergénérationnelle. Donc à chaque fois que moi je propose par exemple de baisser les retraites, on
me dit... cesser d'indexer.
Non, moi je pense qu'il faut les baisser.
Ah oui, à la grecque quoi.
Oui, d'accord. Chaque fois que je dis qu'il faut les baisser, on me dit que je vais asphyxier les retraités. Mais si, en baissant les retraites, j'asphyxie les retraités, c'est bien qu'on n'a pas suffisamment épargné au cours de son existence pour supporter une mesure de réajustement entre les générations. Parce qu'il y a un problème d'équité intergénérationnelle qui se pose aujourd'hui. Et si...
une minute.
Oui.
Si en réajustant entre les générations, on met en difficulté la génération qui arrive à la retraite, c'est qu'elle n'a pas assez d'épargne.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les retraités reçoivent plus qu'ils n'ont cotisé avec le système que nous avons. Ça, c'est factuel.
Mais ça, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais la question, c'est est-ce que c'est un jeu à somme nulle ?
Bon, alors, répondez, mais pas trop long, Gilbert, parce que je veux absolument donner la parole à François là-dessus aussi.
Je ne peux pas quand même ne pas réagir.
Allez-y.
Quand même ne pas réagir. Le retraité moyen. Le retraité moyen n'existe pas. Et dans les retraités, il y a beaucoup de diversité. Je m'autorise à répéter ici ce que j'ai écrit dans la presse, préconisé dans la presse. Je pense que dans la situation actuelle où on veut encourager le travail, il aurait peut-être été judicieux du côté des retraites, par exemple, de profiter du moment d'indexation fort des retraites au 1er janvier dernier, quelque chose de très fort, et bien de faire disparaître certaines niches fiscales qui coûtent beaucoup. Je pense par exemple aux 10% d'abattement pour frais professionnels d'abattement fiscal.
Vous l'avez déjà dit ici, vous avez mis le feu à mon compte Twitter pendant 15 jours.
Pour les retraités. Et c'est une mesure éminemment redistributive, puisque 55% des foyers fiscaux ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas quel est ce pourcentage pour les retraités, mais ça veut dire que les petites retraites ne seraient pas touchées, ne seraient pas concernées par ça, et même la grande majorité des retraites moyennes. Donc ça aurait été une mesure sur les retraites qui aurait rapporté 4 milliards d'euros, qui aurait simplifié la carte fiscale, qui est particulièrement complexe dans notre pays, et puis qui, en termes d'affichage, je dirais c'est quelque chose d'important, aurait abouti à ce que l'ajustement, la consolidation fiscale qu'on pratique aujourd'hui n'est pas un seul gros poste, pour l'instant le seul gros poste consistant, c'est hélas la réforme du chômage à laquelle j'adhère totalement.
On va en dire
mais,
un mot.
Mais... il y a beaucoup de rabotage à côté, il y aurait eu d'autres gros postes qui seraient associés à ça pour contribuer à la
consolidation. J'ai eu énormément de courriers de retraités depuis que vous m'avez dit qu'il y avait effectivement les fameux 10% d'abattement pour frais professionnels, qu'il y avait la question de la CSG réduite et la question de l'indexation. Et notamment un qui m'a écrit pour me dire considérant que c'est très mal nommé abattement pour frais professionnels quand on parle des retraités, mais que l'origine de cette mesure remonte aux années 60, à un moment où on voulait rétablir de l'équité entre l'ensemble des contribuables, ceux qui étaient très mobiles et qui pouvaient éventuellement avoir des portes de sortie face à l'impôt et ceux qui ne le pouvaient pas. Et historiquement, il a raison. Historiquement, il a raison. Après, on pourrait renommer, vous voyez, enfin bref. On a dit au début de l'émission, les boomers sont-ils trop riches, François Eckhall? Et Fergan disait, bon, j'admets que ça vient de quelqu'un qui est loin encore de l'âge de la retraite. Mais vous, vous réagissez en disant...
Je suis riche.
En disant, oui. Non, mais voilà.
J'admets que je suis riche.
Là, le coup de la Cour des comptes, il va probablement se passer des trucs assez durs sur les dépenses sociales. Et c'était l'histoire de passer les jours de carence de 3 à 7, c'est ouf. Mmh. Ou encore de passer de 3 à 2 ans la prise en charge des longues maladies. C'est du lourd. Mais est-ce qu'il faut répartir la facture, pas uniquement sur les actifs
Au sujet de la dette publique, il faut bien avoir conscience que pour simplement arriver à stabiliser la dette publique, pas en euros, on n'arrivera jamais en euros, en pourcentage du PIB déjà, donc accepter qu'elle augmente en euros autant que le PIB. Déjà, pour arriver à ça, il faut qu'on... Et c'est en fait ce que propose le gouvernement dans son programme de stabilité, etc. Il y arrive tout juste à l'horizon de 2027, en réduisant le déficit public, et si on ne veut pas, comme le gouvernement, le faire en augmentant les impôts, il y a un peu de hausse d'impôts sur les dépenses fiscales dans le programme de stabilité. Bon, il y en a même un peu.
Mais quand on coupe des dépenses fiscales, l'effet, c'est comme une hausse d'impôts.
Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Et donc, à ce moment-là, il faut faire des économies sur les dépenses publiques qui sont considérables. C'est beaucoup plus important que tout ce qu'on a fait en France jusqu'à présent sur une période équivalente. Donc, et comme les dépenses sociales, c'est plus de la moitié des dépenses publiques, les retraites, c'est le quart des dépenses publiques, on ne peut pas faire autrement. Alors après, il y a les gens qui vont vous dire, il suffit de réduire le nombre de fonctionnaires, de supprimer les gaspillages. Ça, c'est facile à dire.
Oui, mais
dans la pratique,
les montants n'y sont pas.
Plus compliqué.
J'ai vu, supprimons les voitures des ministères, les trucs classiques.
Rien,
voilà,
c'est C'est purement symbolique.
Même, François.
Les fonctionnaires, c'est qui? La moitié des fonctionnaires, c'est des enseignants. Voilà.
François.
Et après, vous avez les policiers, vous avez les militaires, etc.
François, tu as très bien montré quand même.
Oui.
Que les collectivités locales en termes d'emploi.
Non, mais je suis d'accord.
Évolué.
Non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est très difficile. C'est pas ça qui permettra au total d'avoir les quelques 80 milliards d'économies qu'on nous annonce. Donc oui, bien sûr, il faut le faire dans les collectivités locales, dans un peu partout. Les fonctionnaires, il faut réduire. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il faut pas se faire d'illusions. C'est pas, ça ne suffira pas. Et donc il faudra jouer aussi à sur les dépenses sociales et en particulier
sur
les retraites.
Voilà.
Que ce soit par la désindexation des retraites
ou par
la suppression de l'abattement de 10%. En effet, c'est un moyen, en fait, de gagner de l'argent, de réduire le déficit en touchant effectivement les boomers comme moi, mais sans toucher les plus modestes, parce que les plus modestes ne bénéficient pas de l'abattement. C'est un moyen qui permet...
Et ça simplifie la carte fiscale.
Et ça simplifie, permet de supprimer une niche fiscale. une mesure intéressante.
Vous n'êtes pas seul, Fergan Aziari.
Oui, alors moi je préférerais quand même qu'on baisse les dépenses plus qu'on supprime les niches fiscales, mais enfin c'est un autre débat. Ceci dit, pour répondre à la question de savoir si les boomers sont trop riches ou pas, alors la réponse à cette question c'est à la fois oui et non. C'est-à-dire qu'en soi, qu'une catégorie s'enrichisse ne pose pas de problème. L'économie n'est pas nécessairement un jeu à somme nulle, et donc dans l'histoire, les vieux ont toujours été plus riches que les jeunes.
Il y a une forme de cohérence,
oui, c'est normal. Vous avez épargné pendant 40 ans, il est normal que vous ayez plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître ou que celui
J'ai plus de moyens qu'à 20 ans, j'en ai 55.
Exactement. Donc, les vieux ont toujours été plus riches que les jeunes, et ça, c'est parfaitement normal. D'ailleurs, la seule période dans l'histoire qui fait un petit peu exception à cette règle, c'est la période des deux guerres mondiales, ce que montre d'ailleurs Piketty, parce qu'à ce moment-là, tous les patrimoines sont impactés par les destructions. Donc, vous avez un nivellement par le bas, mais on voit bien que personne ne va ériger 45 en une espèce d'âge d'or au motif que les parents étaient aussi pauvres que leurs grands-parents. Simplement, Aujourd'hui, on a un système de retraite, et je reviens là-dessus parce que je crois que c'est l'essentiel. On a depuis 41 un système de retraite par répartition qui est un jeu à somme nulle. Et je crois que c'est l'essentiel du sujet. C'est-à-dire que jusqu'à une époque très récente, la fortune des seniors était essentiellement composée de leur épargne ainsi que celle de leurs parents via l'héritage. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La fortune des seniors est composée de leur épargne personnelle, de l'épargne de leurs parents via l'héritage, mais aussi de l'épargne de leurs enfants et de leurs petits-enfants via le système de retraite par répartition, alors même que leurs enfants et leurs petits-enfants sont plus pauvres que leurs grands-parents. Et c'est là où il y a un système de justice intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'un système de retraite qui est un jeu à somme nulle, là où nous aurions dû faire le choix d'un système de retraite par capitalisation qui est un jeu à somme positive, où la fortune des uns serait davantage le produit d'investissements productifs et moins le fait de prélèvements sur des actifs plus précaires et plus pauvres par essence. Et je crois que c'est le cœur du sujet en réalité, mais c'est un sujet que nous ne sommes pas pressés d'aborder.
Gilles Berset, pour agir à ça, et puis ensuite on dira
d'assurance chômage. C'est vrai qu'un chiffre a beaucoup choqué dans le débat économique, c'est que le niveau de vie moyen du retraité est équivalent, voire légèrement supérieur, au niveau de vie moyen dans l'ensemble de la population. Je ne vais pas vous rassurer, il ne s'agit pas de rassurer, mais quand on voit les projections qui ont été publiées par les précédents rapports du COR, de l'an dernier, de l'année d'avant, etc., on voit que ce niveau de vie relatif, spontanément, va baisser.
Oui, ça ne me rassure pas plus que ça. Hein.
Non, mais spontanément, va baisser.
Oui, ça c'est
vrai. Il va baisser à environ, à la louche, à environ 85%. C'est-à-dire que sur quelques...
Ça veut dire quoi, va baisser à 85% de...
C'est-à-dire que là où il est de 100% du niveau de moyen de la population, avec les actifs, oui. Avec etc.
D'accord.
Il va arriver à un niveau de 85%.
L'ensemble de la population va dépasser l'ensemble des retraités.
Très largement, et d'ailleurs dans un avenir très court. Et puis ensuite, la baisse relative, le niveau relatif va continuer à baisser sur les prochaines décennies. Bon, et pour quelle raison ? Eh bien, même si les gains de productivité sont assez faibles, les salaires, beaucoup de revenus sont indexés explicitement ou implicitement sur la productivité, les retraites le sont sur l'inflation. Sous des hypothèses assez avantageuses, de ce type-là, c'est avantageuse, c'est-à-dire peu de gains de productivité, une indexation sur la seule inflation pour les retraites. Sous ces hypothèses-là, il y a une baisse du niveau de vie relatif des retraités sur les prochaines décennies, qui est régulière, qui continue et qui aboutit à environ 85%. Donc voilà, il faut quand même situer les choses dans leur
perspective. Mais c'est pas forcément rien à dire, la vigie des finances publiques, en entendant tout ça.
Non, mais c'est vrai. Après, je vais juste un bémol par rapport à ce que dit Gilbert. C'est dans le long terme.
Oui.
Voilà. Donc ça n'interdit pas pour les prochaines années à l'horizon de 2027.
Bien sûr, ouais. Tu m'as entendu
dire que on peut peut-être anticiper ce mouvement en désindexant légèrement ou en supprimant l'abattement. Supprimant l'abattement.
Mais c'est bien, François, il parle aux retraités avec le sourire pour leur dire des horreurs. Mais
je voudrais juste clarifier quelque chose. Moi, je ne dis pas que les retraités sont par essence trop riches. C'est pas mon propos. Je dis simplement qu'il y a des manières de s'enrichir qui sont plus ou moins saines.
Dans
un système de retraite par capitalisation, les retraités ne seraient jamais trop riches parce que leur fortune ne serait pas le fruit d'un jeu à somme nulle. Et donc, leur fortune serait le produit d'investissements productifs qui seraient profitables à tout le monde. Donc, en réalité, nos boomers sont trop pauvres. Ils sont trop pauvres parce qu'on n'a pas assez capitalisé et ils sont trop riches parce qu'on a un système de retraite par répartition qui pressurise les actifs. C'est ça le paradoxe de notre système.
Alors, un jour, il faudra que je vous mette en débat face à Jean-Marc Daniel, parce qu'il ne partage pas votre point de vue, précisément.
L'accord et le désaccord. Moi, le désaccord complet que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, en France, il n'y a pas de déficit d'épargne, et simplement, la question
d'épargne
que
privée, attention,
L'épargne privée, simplement, la mobilisation de cette épargne pour être plus favorable à la croissance. Et les incitations fiscales qui existent aujourd'hui ne sont pas celles qui seraient optimales pour favoriser la croissance et la mobilisation de cette épargne pour la croissance. Le point sur lequel je suis complètement en accord, c'est que quand on parle d'inégalité, il faut prendre en compte, je dirais, le patrimoine implicite qu'ont les retraités. C'est-à-dire, on est un pays qui sert des retraites qui représentent 14% du PIB, avec un taux d'intérêt de 3%, il faut multiplier ces 14% par 30 ou par 35 pour voir quel est ce patrimoine implicite dont bénéficient les retraités en France. Et si on prenait ça en compte, l'image qu'on a des inégalités de patrimoine serait en France complètement différente à ce qu'elle est quand on ne les prend pas en compte et quand on compare les inégalités de patrimoine en France avec celles d'autres pays. Alors, pas mal de travaux sont faits sur cette question pour prendre en compte cette espèce de capital implicite. Mais il est clair que, tout retraité qui aujourd'hui apprécie sa situation financière se dit « j'ai le droit jusqu'à la fin de mes jours à tel rendement par an ». Et ça, c'est du capital implicite, c'est du rendement d'un capital implicite. Voilà. Il faut le prendre en compte quand on parle.
Un mot de. Alors, j'ai un auditeur qui s'appelle David qui met l'épargne française est dans les mains des plus vieux qui sont averses au risque. Cette épargne ne fait rien. Elle ne s'investit pas dans l'économie. Elle est ensuite transmise en héritage à des soixantenaires qui feront la même chose.
Bon. C'est plus complexe que ça.
Non, ouais, d'accord. Mais...
Puis il y a peut-être des incitations fiscales qui ne sont pas les meilleures.
J'ai Monsieur Fusion qui me dit qu'il a été militaire, il est dans le privé, il pense qu'il y a des grandes améliorations de gestion possibles. Là où il était, visiblement. Alors, je sais pas si, je pense dans le public, mais il y en a sûrement aussi dans le privé. On a 1 minute 40. La réforme de l'assurance chômage. Gilbert, j'ai dit qu'elle est dure, cette réforme. Et je dis d'ailleurs que le fait de réduire des droits sans réduire les cotisations, c'est une hausse d'impôts. On n'a pas beaucoup de temps.
Hein. Oui, la dette de l'UNEDIC est quand même considérable. Donc,
50 000.
Donc si ça peut concourir à...
45 ans.
Si ça peut concourir plus ou moins à la baisse de cette dette, c'est un bienfait pour nous tous. Mais je dirais que ce qui est en train de se décider, hein, ce qui a été transmis au Conseil d'État comme projet de réforme, ne fait que nous rapprocher de pays comme par exemple l'Allemagne ou comme par exemple la Belgique qui est pris souvent comme exemple par les partenaires sociaux quand on parle de salaire. En Allemagne, pour être éligible, il faut avoir contribué, il faut avoir travaillé les 12 mois sur les 30 derniers mois. En Belgique, 312 jours sur les 21 derniers mois. Quand on fait le calcul, la règle de 3, on voit que les 8 mois sur 20 mois, on est encore un petit peu plus généreux, malgré le durcissement, effectivement, auquel ça correspond. Donc, encore une fois, on était un outlier, on partait de très loin. D'accord. Beaucoup d'études ont montré que les mauvaises incitations par des durées de prestations d'indemnisation très longues, jouaient sur l'effort de recherche d'un emploi. Donc, on a une masse de travaux académiques sur cette question-là.
Ça, c'est vrai, on a beaucoup de travaux académiques.
Et donc, la réduction qui se fait maintenant nous rapproche de pays qui sont autour de nous et permettront, je l'espère, de contribuer à l'augmentation du taux d'emploi. Il faut voir quand même, juste un point pour finir, que l'un des résultats des réformes qui ont été engagées sur les dernières années, hein, c'est une augmentation quasiment continue du taux d'emploi. Et encore au premier trimestre de l'année, derrière la stabilité du taux de chômage, il y a une augmentation de 0,3 points du taux d'emploi.
Ils vont couper la lumière. Pardon.
Quand on est trop long, ils coupent la lumière maintenant. Vous avez échappé à la question qui tue. Est-ce que la CADES verra le jour? Enfin, est-ce que la CADES est infinie et définitive? Je voulais vous interroger là-dessus, François.
Elle est infinie.
Elle devait disparaître en 2009. Je crois que c'est 2033 maintenant.
Oui, c'est 2033.
Ouais, c'est bien.
On ne s'arrêtera pas en 2033.
Non, parce que je voulais faire un peu de dépenses sociales, les arrêts de travail, tout ça. Bon, on n'a pas le temps, mais on aura toujours de la dette sociale la semaine prochaine. On pourra en parler.
Voilà.
D'ailleurs, je vous fais le coup. Je vous promets quand vous venez la prochaine fois, c'est le 20 juin. Allez, la CADES est-elle mortelle? C'est bon comme question, ça. Merci, Ferganesi, Harry, Gilbert Sette, François Eckal. Vous me raconterez, Gilbert, à la commission Juvin.
Je m'y prépare.
À lundi. À lundi. À lundi. À lundi 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.